France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Vincent Segal et je suis né à Reims, en Champagne, le 27 avril 67. Et je suis violoncelliste.
Il y a plusieurs affinités, on l'entend, hein, des affinités électives qui sont aussi des histoires de fidélité, d'amitié. On a l'impression que l'un ne va pas sans l'autre, que c'est aussi dans votre vie de musicien, Vincent Segal, cet amour des projets qui se développent, un peu comme les musiques qui se développent, les projets qui se développent et qui ont leur temps. On a évoqué Pierce Faccini, deux autres évidemment comparses impossibles à ne pas nommer, qu'on a pu entendre déjà ça et là, mais pas plus que ça, Cyril Atef et Balaké Sissoko. Deux rencontres très importantes et un compagnonnage de plusieurs dizaines d'années déjà, qui ne se lasse pas à la fois des disques, mais des concerts. Et je pense, vous me direz si je me trompe, mais ce même appétit de chercher toujours, en fait. C'est-à-dire que c'est peut-être ça qui est le secret d'une longévité, c'est qu'on ne s'installe pas dans une tradition, on est toujours dans l'idée de trouver ailleurs.
Cyril, c'est comme le clown Auguste. Et Valaké, ce serait plutôt le monde de la nuit. D'ailleurs, on a un album qui s'appelle « Musique de nuit », mais c'est vraiment le... De temps en temps, même Valaké et moi, on adore Cyril pour son côté explosif, créatif, mais sans aucune pudeur. Il a toujours été comme ça, c'est quelqu'un de très punk. Si par exemple, on est dans un festival reggae, il va pas jouer une note de reggae. Parce qu'avec Bomchelon, on joue ce qu'on veut. Si on arrive dans un festival de hardcore, on va jouer que des musiques super douces, voire expérimentales. Si on est dans un festival de musique expérimentale, il va jouer du disco. Il est complètement
à contre-courant.
Contre-courant et toujours. Et il le fait exprès. Moi, j'aurais tendance à te dire, bon, on va faire plaisir au public, on est dans un festival punk, on va leur montrer qu'on peut faire des trucs très rock. Très... Et lui, pas du tout. Et puis, il est très cultivé.
Comment vous êtes rencontrés?
On s'est rencontrés par Julien Leroux, saxophoniste, qui est toujours quelqu'un d'assez proche, puisqu'on enseigne ensemble à Aubervilliers. On sortait d'un concert de Steve Coleman, justement, et puis il m'a dit « Ouais, j'ai un projet, j'aimerais bien te présenter des musiciens. » Il y avait Sébastien Martel, et Cyril, qui est arrivé avec, je me souviens, il avait un chapeau de Sherlock Holmes, une espèce de faux pantalon africain, complètement excentrique par rapport à moi. Et dans le jeu, on s'est tout de suite vraiment bien entendu. Quand il jouait, j'entendais qu'il anticipait tout, et c'était surtout sa manière stylisée de jouer. C'est-à-dire, quand il joue... une musique un peu afro ou un truc un peu... On est dedans, quoi. Il y a un truc très... Et tout le monde adore sur ça, Cyril. C'est-à-dire qu'il est... Il est polyglotte, quoi. Dans le jeu, il y a ça. Il y a un côté très à l'aise partout. Et ça, il a cette espèce d'aplomb que j'ai pas du tout. Et on a fait beaucoup de choses très différentes. C'est-à-dire qu'on a travaillé autant avec Alexandre Desplat sur plein de films que de jouer pendant des années avec Mathieu, chez Did. Et en faisant des projets de jazz expérimentaux, de musique africaine. Et Bomchelo, qui est le duo qu'on a fondé tous les deux dans un club qui s'appelait le Citéa rue Oberkampf. En fait, c'était la vague vraiment de la house music, acid jazz, des choses comme ça. Et les musiciens jouaient à 20h30, mais pas à 22h. À 22h, c'était les DJ. On a dit au patron du club, prends-nous, on sera tous les deux, on te promet qu'on fera danser les gens. Le principe, c'était ça, c'était improviser, mais... toujours avec ce côté de faire la fête. C'est un groupe vraiment pour danser, Bomchelo. Balaké, c'est autre chose. Balaké, c'était quelqu'un que j'écoutais déjà chez La Belle Bleue. Je connaissais bien ces albums, j'adorais, j'avais l'album en duo qu'ils avaient fait en hommage à leurs parents respectifs avec Toumani. C'était quelqu'un d'austère, très timide. Quand il m'a demandé de jouer avec lui, j'étais impressionné, j'osais pas, j'étais là, ouais, je connais assez bien la musique mandingue, mais quand même, je peux jouer de la variété africaine, mais lui, pour moi, c'est comme jouer avec un grand musicien classique, un truc assez installé. Et on a commencé à jouer ici, donc quand il venait, parce que l'avantage de post-colonial, c'est que Paris était la plaque tournante pour la logistique des avions de Bamako. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Balaké allait jouer en Argentine ou aux États-Unis, il passait par Paris forcément. Et c'était une chance parce qu'il s'arrêtait souvent et on a commencé à jouer de manière informelle dans mon local sans aucun truc que le plaisir de jouer ensemble. Et ça a duré plusieurs années. On se voyait beaucoup. Mais hein. on jouait. Et un jour, ma voisine qui fait des bijoux à côté, elle me dit oh, « c'est vraiment beau quand vous jouez. À chaque fois que vous jouez, je suis bien. » Je lui dis bah, « nous, on est bien aussi. » Et un jour, à l'Opéra Lyon, c'est quand même dingue ce truc. Balaké a une carte blanche à l'amphithéâtre de l'Opéra Lyon, qui est un endroit où on pouvait expérimenter des choses. Et là, je me dis, c'est drôle quand même. Premier concert qu'on fait à l'Opéra Lyon. Et je lui dis, t'es sûr que t'es prêt? On peut faire un concert? Il me dit, oui, on fait exactement comme ce qu'on fait. On a joué, c'était vraiment bien. Et ensuite, on a une deuxième opportunité de concert en Afrique. Deux semaines après, on est parti au Gabon. Pareil, on joue. Et puis, on était à Bamako et tout est parti à Bamako. Balaké a dit ouais, je veux enregistrer. Donc Salif a dit ouais, je vous laisse mon studio.
Salif Keita.
Ouais, Salif Keita, qui était quelqu'un que je connaissais depuis les années 80. Enfin, puisque j'étais voisin de Cheikh Tidi Hansek. Enfin, donc c'est des gens que je connais. Mais jamais j'osais leur demander quoi que ce soit. Enfin, c'était plus facile de jouer avec Salif en variété parce que Salif c'est pas un jelly, c'est pas un griot. C'est très respecté, mais c'est quand même une musique. Balaké, ça me faisait un peu peur. Et puis on a enregistré là-bas et on joue encore tout le temps, quoi. Et toujours de la même manière. Par exemple, on joue toujours le premier morceau, on n'a jamais joué autre chose, mais c'est ce qui nous met bien. Et après, on dérive. Alors, pour moi, c'est la musique de chambre, c'est-à-dire je joue avec une cora, mais un peu comme si je jouais piano-violoncelle, mais sauf que c'est que des cordes. Et effectivement, l'univers est peut-être simpliste pour beaucoup de gens, mais pour moi, enfin, c'est pas du tout ce que je recherche quand je joue avec Balaké. C'est plus sur le son et le. Espèce de bien-être personnel. On joue pour nous, hein, on est très égoïste. Dans la musique classique, je sais que beaucoup de musiciens jouent pour eux, en fait. Juste, on est content que les gens soient là ou pas, ça c'est sûr, mais on joue pour nous.
Vincent Segal, dans quelle mesure, si on parle aussi un peu de technique, de violoncelle, tous ces univers-là ont influencé votre rapport au violoncelle? Bon, déjà, il y a le violoncelle acoustique et le violoncelle électrique. Le violoncelle électrique, il se joue debout. Je me dis que le rapport au corps n'est pas quand même tout à fait la même chose et que ça, c'est pas quelque chose d'anodin. Et ensuite, quand vous jouez à côté de Balaké, dans quelle mesure aussi le travail sur la cora, la manière de toucher les cordes, avec une oreille qui est à la fois en imitation et en même temps autonome. Mais voilà, si on parle un peu vraiment de l'instrument, là, et de votre rapport à l'instrument.
Berlioz, c'est la première personne qui a écrit sur le violoncelle en disant « Je pense qu'on peut faire d'autres choses avec le violoncelle. » J'ai retrouvé des écrits où il parle de ça. Et puis même dans son traité, il aborde les pizzicati en disant « Voilà, je pense qu'on peut développer... » C'est vraiment un outil comme un crayon pour moi, le violoncelle, mais le fait d'avoir abordé autant de musique du monde et autant de styles, j'ai beaucoup observé d'autres musiciens jouer avec d'autres instruments, en particulier à cordes, mais pas seulement, des instruments à vent, des flûtes. Et en fait, j'essayais de tout refaire avec le violoncelle acoustique d'abord. L'électrique, c'est plus des déformations avec les effets, mais qui sont assez anecdotiques finalement. Le principe même de mon jeu, il vient vraiment de façon d'aborder le violoncelle acoustique, que ce soit en piz ou à l'archet. C'est-à-dire, j'aime l'archet quand c'est quelque chose où il y a une espèce de scansion comme les fiddles, les instrumentistes irlandais, ou les viols comme le kemençe en Turquie, ou les façons de jouer des Mexicains avec le violon, les mariachis, ou des Indiens d'Inde du Sud. Un truc très, très, très chanté et très rythmique. Les pids, c'est plus arriver à être beaucoup plus virtuose que mes amis, collègues classiques l'étaient avec les pids. C'est ça. Je suis content parce que il y a une espèce de filiation. Maintenant, je vois des jeunes violoncistes qui jouent vraiment comme ça et ça s'entend. Il y a quelque chose, on entend, on se dit, waouh, c'est du violoncelle, là, waouh. Au début, souvent, ça m'arrivait quand je faisais des disques comme ça, que les gens disent, on n'entend pas ton violoncelle. Ça m'est même arrivé avec le premier disque de Balaké. Les gens disaient, ouais, ils jouent, on entend un peu de violoncelle, mais pas trop, parce qu'ils n'entendaient pas tout le travail de Pids, en fait. Ils pensaient que c'était la cora, mais les gens n'ont pas de culture, donc, souvent, j'ai souffert de ça. je faisais des trucs de hip-hop, tout était fait avec le violoncelle électrique. Les gens disaient, on n'entend pas ton violoncelle. J'étais, ah, bah, c'est moi qui ai tout fait. À part la boîte à rythme, tout le reste, c'est violoncelle électrique. Sur Black Eyed Peas, par exemple, beaucoup. J'ai vachement souffert de ça, en fait, de ce côté...
Manque de reconnaissance du travail.
Sur ça, oui, parce que franchement, il y avait un gros travail. Mais maintenant, à 53 ans, je suis hyper content parce que beaucoup de mes collègues, comme Raphaël Pidou, tout ça, ils m'invitent souvent. Et même là, j'adore aller voir des copains qui sont à l'orchestre qui me disent « Ouais, on voudrait faire une journée avec toi et on travaille avec que le pupitre de violoncelle ou d'autres pour travailler les modes de jeu, travailler. » Je le fais au CNSM à Lyon et c'est super bien, en fait. Ça me permet de leur montrer, si vous travaillez l'instrument de cette manière-là, vous pouvez jouer des choses qui vous sont trop particulière à des moments de votre vie et vous allez le regretter parce que aujourd'hui, quand on vit dans un monde où les gens demandent de jouer rythmiquement d'une manière vraiment pointue en Amérique du Sud ou sur des musiques de films, je considère que la musique classique indienne, c'est une des musiques les plus fortes qui existent techniquement au monde et en fait, beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc, je leur demande pas d'être des spécialistes, mais au moins d'avoir un peu d'attention sur ces modes de jeu. C'est pas normal de voir des musiciens, un violoniste d'Afrique, d'Inde du Sud jouer d'une manière mais démente et que personne ne les connaît ici. Je me souviens en tournée, quand j'étais dans le nord de l'Angleterre, par exemple à Newcastle avec Sting, j'allais tout le temps dans les pubs écouter des violonistes de folk jouer, j'en profitais. Mais c'était dingue de voir des petits bouts de 12 ans, 13 ans arriver dans le pub où tout le monde buvait des bières à fond et eux ils jouaient avec les autres et ils jouaient comme des fous. Là, jamais j'aurais sorti mon violoncelle. Impossible.
France Musique. Les grands entretiens de Vincent Segal.
Ma culture musicale populaire, elle n'est pas liée à la pop anglaise, elle est plutôt liée à la musique sud-américaine et hip-hop, funk. Funk, c'est une bonne culture pour moi. Enfin, je suis à l'aise. La musique pop anglaise, c'est vraiment, il faut vraiment être anglais, je crois. C'est un truc très particulier.
Il y a une autre figure qui est importante, je crois, aussi, et si on parle de la technique aussi, c'est Mama Wanja.
Oui. Alors lui, j'ai connu dans le métro. Il avait un disque, c'était marqué 100% Bikutsi dessus. Et à l'époque, j'étais fou du film de Claire Denis, Man No Run, qui était sur les Têtes Brûlées, qui est un groupe de Cameroun qu'elle a filmé pendant un bon moment. Et Zanzibar, le guitariste, qui était un génie, Jean Hendrix camerounais. Première chose, je me rends compte que sur la pochette, il y a Zanzibar, le mec des Têtes Brûlées. Et donc je demande au monsieur, est-ce que je peux acheter ce disque? Est-ce que vous en avez d'autres? Il me dit, oui, je peux vous le vendre, j'en ai d'autres. C'est moi qui joue. Je lui dis, mais Zanzibar, vous connaissez? Il me dit, ah, c'était mon neveu. Il jouait avec moi quand il était tout jeune. Il me dit, est-ce que je peux avoir votre téléphone? J'avais mon violoncelle avec moi. Je lui donne mon téléphone. Et j'écoute le disque qui était vraiment du Bikutsi, quoi. C'est une musique, Bikutsi, ça veut dire frapper la terre avec ses pieds. C'est une musique de danse où il y a des polyrythmies en permanence. C'est-à-dire c'est du 3 pour 4 en permanence. C'est-à-dire qu'on peut faire ta, ka, 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 ka. Donc c'est 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1. Donc c'est une musique de trance, mais où il y a des polyrythmies, où il faut vraiment être dedans, quoi. Deux semaines après, je reçois un coup de téléphone de ma maman Jack qui me dit voilà, mon bassiste a fait faux bond. À l'époque, c'était l'époque des visas, des trucs. Est-ce que vous voulez venir jouer avec moi pour un concert en Autriche? Moi, j'étais là, mais je joue pas assez bien de la basse pour jouer avec vous et tout faire. Et en fait, il me dit, ah non, mais moi, je vais vous apprendre. Et donc, il est à Corentin Cario dans une petite chambre de bonne. Je le retrouve là-bas, j'avais une basse, j'avais pas d'ampli. Il chantonnait ce que je devais jouer à la basse et il me tapait les rythmiques sur le genou. Et je comprenais rien. Et je passais des heures. Là, je jouais plus pendant une semaine, j'ai pas touché à mon violoncelle. J'étais sur la basse en permanence. Et quand on a fait la répétition la veille du concert avec le Jojo Ko, qui était le batteur de l'époque, qui vit aux États-Unis maintenant, tout d'un coup, c'était beaucoup plus facile parce qu'il y avait les autres musiciens qui jouaient et tout ce que j'ai fait pendant une semaine avec lui, tout seul, sans entendre sa musique, ça... Et j'ai fait ce concert où j'ai rencontré Magic Malik pour la première fois parce qu'il était avec un groupe qui s'appelait Human Spirit. On a fait la route Paris-Vienne en bus pour jouer le jour même. Et on est rentré en bus après, donc on a pu sympathiser avec Malik. Et c'est vrai que Mama Wanja, c'est comme Rido Bayonne. Rido Bayonne, c'est un très grand bassiste qui avait un big band incroyable, qui jouait avec des musiciens comme Richard Bona, tout ça, et tout le monde jouait gratuitement pour lui. Il y avait 17 musiciens et on a toujours joué gratuitement pour lui, tellement c'était un maître, c'était genre le Zappa africain, je dirais, Frank Zappa africain, Rido Bayon. Mama et Rido Bayon, c'est des gens très importants pour moi.
C'est un pain quotidien, Bach, ou pas?
Oui. Pendant le confinement, j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait. J'en ai profité pour pouvoir les jouer toutes par cœur. Parce qu'avant, certaines danses m'échappaient un peu sur la 4e, 5e, 6e. Il y avait certains trucs où j'étais là, waouh. Je les avais jamais jouées. Maintenant, je peux vraiment faire comme Casals. C'est-à-dire dire, là, ce matin, j'ai joué la 2e. Demain, ce sera la 3e. Je tourne comme ça. Après-demain, la 4e. Et en plus, c'est bien par cœur. Parce que je suis très dématérialisation maintenant en tournée. J'ai mal au dos. Donc en fait, je prends le minimum. Et je sais qu'avec l'âge, c'est ça qui est agréable. C'est que j'ai un grand répertoire que je peux jouer par cœur. Et puis avec la dématérialisation aussi, je peux consulter des œuvres de musique de chambre de partout sans avoir à porter ma bibliothèque, ce qui est très agréable aussi. Je trouve ça, de pouvoir consulter tout de suite et écouter une version en suivant la partition instantanément n'importe où dans le monde, je trouve ça... Mais quand j'ai eu le sacre en partition, c'était un...
Ça, le sacre, c'est quelque chose qui vous fascinait, par exemple, enfant
Oui, ce que j'aime dans le sacre, ça m'est resté tout le temps, c'est il n'y a pas de développement. J'adore ça. Il y a plein de tableaux avec des... une force d'écriture monstrueuse, mais qui a pas ce truc de développement comme chez Bartok par exemple ou Beethoven ou enfin les maîtres du développement. C'est comme s'ils trouvent des idées incroyables et ça reste juste le temps d'idées. Après ils passent à autre chose et bon évidemment je pense que des grands analystes comme Boulez ils voient bien tout ce qu'il y a de développement et avec... J'adore Stravinsky sa subtilité insoupçonnée. J'adore Apollon Musagète. Et je trouve que la fin, on dirait du Radiohead ou des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un côté minimal avec des formes qui tournent et qui sont jamais les mêmes. À la toute fin du ballet, j'ai la version de Markevitch que j'adore, avec un orchestre anglais, je crois que c'est le LSO, je suis pas sûr. C'est un disque des années 70 ou 60, je pense. Stravinsky, je trouve pas du tout qu'il est néoclassique quand il fait ça, par exemple. Je comprends pas ce truc d'étiquette néoclassicisme. Je trouve ça hyper moderne de se dire, voilà, j'arrive à utiliser des choses avec une tonalité, mais qui sonne pas du tout comme ce qu'il y avait avant. C'est pas du Sibelius, enfin, c'est pas du néoclassique. C'est vraiment nouveau. Stravinsky, c'est quelqu'un, on a l'impression qu'il voit déjà le monde du futur dans ses œuvres, comme Picasso.
Quand on est dans un stade avec M, c'est pas tout à fait de la musique de chambre.
Ouais, mais mes stades, c'était mes plus mauvais souvenirs avec Mathieu, en fait. Le seul stade que j'ai fait avec Mathieu, c'était Parc des Princes. Pour la musique, c'est une souffrance. C'est comme jouer dans une baignoire géante. C'est-à-dire, c'est horrible. Non, mes meilleurs souvenirs avec Mathieu, c'est quand on arrivait à jouer dans des très, très, très grands, genre Bercy ou des Zénith. Et en même temps qu'on arrivait à improviser, parce que Mathieu est un bon improvisateur, et qu'on arrivait à faire des choses pas en force, des choses subtiles. Après, justement, j'ai quitté quand ça devenait moins subtil. Mais au départ, on faisait, je me souviens, à l'Olympia, on faisait des trucs dingues. On faisait des 15-16 minutes d'improvisation totale. Et les gens aimaient ça. Et en plus, Mathieu, j'adorais parce que c'est le premier qui m'a laissé faire ce que je voulais avec un violoncelle électrique en chanteur français. Quoi. C'est-à-dire, il m'a dit, viens avec ton violoncelle électrique. On a tourné, on n'était que tous les deux. On jouait dans les salles où il y avait 5 personnes. Des fois, on allait dehors pour dire aux gens, vous ne voulez pas écouter un concert tellement il n'y avait personne. Et ce que j'aime avec Mathieu, c'est connaître Mathieu comme personne le connaît. Quoi. Enfin, connaître les... Nous, on a voyagé en camion à 4 sur les routes de France pour jouer dans des trucs pourris. Et je trouve que c'est la meilleure partie. Je parlais avec des musiciens funk, comme des musiciens qui jouent avec Prince, tout ça. Leur énergie, elle vient des clubs du début, elle vient pas des salles à Bercy. Au contraire, si on arrive à jouer à Bercy, à mettre la même énergie de petits clubs. Et ce que j'aime, c'est les petites salles, c'est sûr. La musique de chambre, même en rock. Enfin, la seule musique pour moi qui a du sens de voir en stade, c'est Bob Marley. C'est du reggae. Il y a un truc de...
Juste une poussière dans un système solaire, une chose mystérieuse. C'est rien, on est tous un peu flous, pas sûr de nous du tout, dans la nébuleuse.
C'est quoi votre rapport au silence ?
Mon rapport au silence, je me lève très tôt le matin. Là à Paris, quand je vais marcher ou courir, genre à 6 heures, il y a un certain calme. Sauf quand les faits tardent, on va finir la nuit et que je les croise, et c'est la nuit, c'est le sommeil, le refuge du sommeil. Je dors très bien, comme un bébé. Pour moi, le silence, c'est un bébé qui dort, ouais, c'est ça. Le silence, en fait, ça n'existe pas déjà. Ça, c'est John Cage, mais il n'y a pas de silence. Il y a toujours quelque chose. On entend son corps, on entend. Mais après, il y a silence et calme, c'est pas la même chose. Mais l'espace et la dynamique, oui. Dynamique, j'adore.
Quand vous marchez, vous chantez, vous.
Non, je fais des exercices rythmiques. Je fais par exemple. On en parlait hier avec mes élèves. Je vais marcher. Et là, je vais faire. C'est-à-dire que je tape à 7. Ça, c'est 7. C'est 2, 2, 3. Et en fait, mon pas, il est à 4. Donc, je décale. Donc, je fais que ça en marchant. Je marche mon pas et je fais ton king 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 ting king 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 ting king 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 ting king 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 ting king king. Ça c'est du 5. Ça se décale par rapport au... Et en fait quand les gens marchent, ils se rendent pas compte, mais ils font des polyrythmies comme ça, c'est-à-dire que la sortie des classes, j'adore quand les enfants ils marchent à 3 temps et que les mères elles marchent à 2 temps, ils s'en rendent pas compte. Le petit il dit alors maman, j'ai fait ça, et ça fait tic 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 tic, et la mère elle est là tic 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 tic, et le grand-père il va être là tic tic. Ça c'est ce que j'aime en marchant, c'est-à-dire les polyrythmies des pas, quoi. Enfin, et nous on fait ça, c'est-à-dire que là le truc que j'ai chanté tout à l'heure, c'est difficile, je l'ai même un peu raté, je pense, c'est d'arriver à garder son chant à 4 et en tapant 7. Ça se rencontre tous les cycles de. Donc 4 x 7, 28. Toutes les unités de 28. Et en fait, ça, on aime. Moi, la marche m'en sert pour ça. C'est-à-dire pour travailler le rythme. Ou alors apprendre des morceaux par cœur. Quand je marche, je suis toujours dans la musique. Quand je m'assois, je suis toujours dans le regard. Et quand je m'assois pour une bonne période, je suis toujours dans la lecture. Ça, c'est sûr.
1, 2, 3, 4.
C'est sur Walking or Riding avec Harrison Kennedy, Jean-Jacques Milteau et Vincent Segal que se termine cette série des grands entretiens avec Vincent Segal. Une série réalisée avec Christine Amado, Christophe Papon, Benjamin Vignal et Flora Sternadel. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste.
À réécouter sur francemusique.fr.